Radio Barque 7e, alors nous nous retrouvons pour revenir un tout petit peu sur le sujet précédent, parce que nous avons ici quelqu'un qui a quelque chose à dire. Vous avez d'ailleurs, Alain Perea, longtemps travaillé sur les SCOT, je crois, ou sur le SCOT.
Tout à fait.
Et évidemment, l'aménagement des villes et des centres-villes vous intéresse. Alors, quel est votre regard là-dessus, ou votre contre-regard ?
Alors là, pour le coup, effectivement, j'ai un contre-regard avec deux éléments. Un, mais je pense intimement convaincu que Michel me rejoindra, c'est qu'une logique d'aménagement doit maintenant se réfléchir au moins à l'échelle de la communauté d'agglomération, hein, pas uniquement à l'échelle de la ville, hein, et de la ville-centre. Et ensuite, mais ça vient aussi peut-être d'un défaut de communication, ce projet dont il parle pour Narbonne, il a existé. En 2007, lorsque, avec Jacques Bascou, nous avons fait la campagne des municipales, le projet existait et il a commencé à être mis en œuvre, un projet global à l'échelle à la fois de la commune et même à l'échelle de l'agglomération. Je voudrais juste citer quelques exemples. Jacques Bascou était parti du postulat que la ville de Narbonne et son territoire ont rayonné tout au long de l'histoire chaque fois qu'ils ont été en contact avec l'eau et que donc le fil conducteur devait être l'eau. Partant de là, dès le début du mandat, nous avons mis en place plusieurs choses dans une logique implacable et globale. Je vous en donne juste quatre exemples pour vous montrer que la machine était lancée. Le premier exemple, ça a été bien sûr de dire il faut faire ressortir la robine, que les gens se réapproprient la robine, d'où le projet des barques. Ensuite, Jacques Bascou a tout le temps insisté sur Narbonne Plage, réappropriation de Narbonne Plage, montrer que Narbonne est proche de la mer. Mais ça allait beaucoup plus loin, et ce sont des subtilités, mais que vous allez... Le festival des cultures méditerranéennes, c'était pas pour rien que c'était un festival des cultures méditerranéennes. Le festival traîné au début s'appelait le festival La Mer. Il a évolué sur le festival traîné parce que c'était beaucoup plus communicant, mais c'était le festival La Mer. Et donc on était véritablement dans une logique. Deux derniers petits points, la décoration des bus de Narbonne, qui est encore en acte actualité, ce sont des vagues, on rappelait l'eau. Et je termine par le logo qui était celui de choisi par la mairie de Narbonne, une petite vague qui rappelait aussi cette logique-là. Donc ce projet existe, Michel, peut-être qu'il a été mal communiqué, peut-être aussi qu'à un moment donné, Jacques Bascou a préféré écouter quelques mauvais conseiller qui était autour de lui, mais il n'empêche que ce projet existait, je l'ai, et si des Narbonnais sont intéressés, je pourrais le leur présenter, je suis sûr qu'ils y découvriront d'excellentes choses sur Narbonne, son avenir et son arrondissement.
Voilà, ben merci Alain Perea pour avoir remis les pendules à l'heure.
Ah et non, on ne va pas de l'heure, ça sera pour le débat, pendant longtemps là-dessus, et j'aurais quelques... Enfin bon, passons. Bon.
Mais c'est un sujet sur lequel Michel reviendra, parce que ça lui tient beaucoup à cœur, absolument.
Non, mais ça me rappelle, tiens, Tournal, Paul Tournal quand même, hein, très rapidement pour nos auditeurs.
Alors, ça nous ramène au 19e siècle.
Attendez, mais... au moment de la destruction des remparts de Narbonne, hein, il avait dit, attendez, mais il faut pas les transformer en matériaux de construction pour faire des immeubles, hein, du tout. Il faut les conserver dans le bout, on les met à la morgue. Et il avait dit, en fait, il avait demandé plutôt, en fait, à la municipalité de l'époque, hein, socialiste, hein, évidemment, hein, il faut garder au moins deux ou trois entrées pour conserver effectivement le caractère, en fait, pour maintenir le caractère patrimonial et historique de cette ville, en fait, et en faire une ressource. Et il avait dit, et à ma mort, vous me promettez que vous allez faire ça. Mmh. Il meurt, le lendemain, on détruit les quatre portes.
Oui, ouais, exactement.
Donc, je veux dire, on est dans une ville, effectivement, où historiquement, je n'ai pas eu connaissance dans son histoire d'une seule mandature qui prenne comme base d'appui de son développement économique, hein, le patrimoine de cette ville.
Voilà. Bon, maintenant, Michel, tu nous avais dit que tu nous parlerais de Macron, il faut quand même s'y atteler.
Oui.
Mais je prends note et j'avertis les auditeurs, nous reviendrons
oui,
sur ce
bien
sujet
sûr.
Qui va passionner les foules et qui te passionne.
Parce que j'exagère évidemment tout le temps.
Alors, Macron.
Ce jeune homme, Jean-Claude, est décidément insupportable. Vraiment insupportable. Hein. Alors, on l'attendait sur un plateau de télévision, par exemple TF1, hein, qui est le 20h est très couru, hein, sur TF1, pour déclarer sa candidature à l'élection présidentielle de 2017. Il l'a fait, franchement. Dans un CFA. À Bobigny, en Seine-Saint-Denis, en plus, bon, j'aurais pu choisir, je ne sais rien, moi, un département plus conforme à l'image que l'on se fait de lui, quoi, hein, monsieur bien, genre parfait, quoi.
À Neuilly.
Et là, il convoque donc des journalistes dans une ambiance bon, d'huile de vidange, bon, avec des bleus de travail autour de lui. Fait, donc, c'est vrai qu'on n'a pas vu la télévision parce qu'il y avait les journaux, combien, tous les journalistes qui étaient là et qui se demandaient ce qu'ils foutaient d'ailleurs, parce que c'était certainement la première fois de leur vie qu'ils entraient dans un CFA, fait, les journalistes en question.
Peut-être.
Imagine, quoi, hein, avec leur micro, là, etc. Bon. Alors, moi, j'avoue que cette image m'a particulièrement réjoui, quoi. En tout cas, je me tiens, voilà, un petit truc, là, original, qui sort des primaires. Alors, primaires de la droite, primaires de la gauche, etc. On est dans les présidentielles maintenant pendant depuis des mois, et on va encore subir ça pendant mois passant. Donc, du coup, ça, je trouve que cette intervention m'a rafraîchi un petit peu, en tout cas la mienne, quoi. Bon,
et alors, sur le plan politique.
Et depuis, on assiste d'abord à un ouragan de critiques, quoi, hein, inouïe. Alors, à gauche, c'est Brutus, hein, Brutus le traître, quoi, le traître historique, hein, Brutus, le coup de poignard de César, donc de Hollande, quoi, hein, c'est le traître. Alors, le plus drôle quand même, c'est que ce sont tous ceux qui, à gauche de Hollande, hein, n'ont pas cessé pendant tout le quinquennat de lui envoyer des coups de poignard dans le dos, fait, de lui foutre des bananes, les frondeurs, quoi, hein, qui le traitent de traître. Enfin, tartufferie, vraiment, poussé à l'extrême, enfin, bon, voilà. Un exemple. Hein. Alors,
d'ailleurs, pour qu'il y eût Brutus, encore faut-il qu'il y eût César.
C'est un
autre débat.
Oui, c'est vrai que tu fais bien de faire cette comparaison historique, mais très audacieuse dans l'espèce, mais bon, j'avais complètement oublié cet aspect-là de la question. Quoi. Bon, sur un plan beaucoup plus philosophique, alors on va apparaître et lire dans des journaux comme Le Monde, en fait, des philosophes bien en cours hollandiennes, hein, qui le traitent d'escroc tout simplement, hein, et alors que les mêmes étaient engagés il n'y a pas très longtemps dans la promotion d'un communisme à la mode Mao, donc ce qui quand même fait un peu drôle, quoi, hein. Alors, une morale après pour tous les planqués, les apparatchiks qui sont biberonnés depuis leur adolescence dans les officines du PS, quoi, et de l'UNEF, hein, l'ancienne de l'ENA, en fait, ou de...
Oui, alors, n'entamant pas de liste, elle serait interminable.
Ah oui, enfin, on traite même d'argent de la finance internationale, tu vois, alors, pour les turiféraires d'un État qui, lui, croule sous les dettes, quoi, des dettes qui, s'il n'y avait pas les finances internationales, je veux dire, on serait en faillite, tout simplement, quoi, hein. Enfin bref, après tu vois, tous ceux qui disent bon que voilà, il est trop social, il est trop jeune pour les vieux.
Il est trop jeune, il est pas assez jeune, il a une femme qui est vieille,
il n'a pas de mandat électoral, en fait, bon, il n'a pas de logistique pour le conduire, en fait, etc. Bref. Insupportable et à tuer, et on commence effectivement à lui envoyer toute une série de...
Oui, bon, mais c'est un petit peu la règle du jeu aussi.
Oui,
hein,
et en même temps, bon, ça le met au centre du jeu, d'une certaine manière, donc oui, il ne doit pas être forcément mécontent de ce genre de situation, quoi. Hein. Bref, en attendant, quand même, ce novice en politique, d'après tous ces gens-là, quoi, hein, viennent de démontrer une parfaite gestion de son calendrier politique et médiatique. Hein. La veille du premier tour des primaires à droite, il retient et efface les électeurs juppéistes plutôt centristes, ce qui pourrait faire monter Fillon, en fait, et Sarkozy. Et,
ça, on va le voir. On va le voir dimanche. Ouais.
Il déstabilise le jeu, en fait, en obligeant Hollande à se découvrir. J'y vais, en fait, maintenant que Macron est candidat et qu'il a précisé que sa décision était irrévocable, ce qui veut dire en termes clairs que même si Hollande se présentait, oui, il serait toujours candidat.
Oui, voilà. Bon, hein. Au moins c'est clair. Au moins, voilà. Alors,
ce qui
chose.
Devrait quand même maintenant poser quand même certaines questions, hein, à Hollande lui-même, parce qu'entre Mélenchon sur sa gauche, et puis des Verts qui vont partir aussi seuls, et puis le jeune Macron qui a décidé de partir pour le centre gauche. Bon, et l'espace reste d'être plus en plus réduit. Enfin bref, c'est un peu la panique, en fait, dans l'ensemble des partis. Et j'avoue que ça me réjouit plutôt que ça m'afflige, parce que on voyait un grand coup de peine à la fermière en ce moment, au point où nous en sommes, franchement. Alors je sais que j'exagère, mais enfin quand même, je trouve ça plutôt amusant et réconfortant pour l'esprit de voir des jeunes garçons se lancer aussi vite et aussi bien dans ce genre d'aventure.
Eh bien, je me réjouis de voir Michel réjoui, puisque ça n'est pas toujours le cas quand il s'agit de l'actualité politique. Nous devons parler également de ce que tu appelles les Macron Boys, mais je crois que nous allons y revenir dans une troisième partie, puisque nous avons aujourd'hui à ce micro quelqu'un qui peut-être correspond à cette étiquette. Michel, tu nous le diras tout à l'heure, à savoir Alain Perea, que l'on retrouve tout de suite après la pause.